parlerai donc effectivement d'un sujet un peu marginal par rapport à l'état d'urgence, mais qui a été grandement influencé par la situation d'état d'urgence, c'est-à-dire l'évolution de la législation antiterroriste depuis quelques années et ce qu'elle a pu devenir sous l'empire de l'état d'urgence. Alors, au préalable, il me faut dire d'abord quelques mots de remerciement pour cette invitation à ces travaux extrêmement intéressants. Ensuite, dire que ma présentation constitue la synthèse d'un travail mené pendant 3 ans avec Julie Alix, qui est professeure de droit pénal à Lille, dans le cadre d'une ANR dirigée par Dominique Linhart et Cédric Modereau de Bellin, qui portait sur les situations intermédiaires entre la guerre et la paix, et donc évidemment le terrorisme et la situation française depuis la déclaration de la guerre au terrorisme, rejoignait cette situation. En d'autres termes, du coup, je ne vais pas tellement parler des sujets qui vous rassemblent aujourd'hui, puisque la consécration constitutionnelle de l'état d'urgence me paraît effectivement abandonnée. Et s'agissant de l'état d'urgence lui-même, j'y reviendrai, mais le mouvement que je vais tenter de décrire a commencé avant et se terminera après l'état d'urgence. Donc l'état d'urgence n'a juste qu'un effet d'accélérateur ou de vecteur, mais pas d'initiative. L'idée donc c'est de s'interroger plutôt sur ces usages contemporains de l'état d'urgence et l'évolution qu'ils induisent sur les normes. Et cela me semble offrir un prisme intéressant, mais si on sort de la question constitutionnelle pour aller sur une autre question qui dépasse un peu la question constitutionnelle, mais qui lui est consubstantiellement liée, c'est-à-dire la question de l'état de droit. La législation antiterroriste constitue alors un prisme intéressant. D'abord parce que l'expérience récente de l'état d'urgence et de sa prorogation depuis 2 ans est consécutive à une succession d'actes de terrorisme, et entre autres les renouvellements ont toujours eu pour justification soit le maintien de la menace, soit un nouvel acte qui venait d'être perpétré. La deuxième chose, c'est que l'état d'urgence s'est en quelque sorte ajouté, comme je viens de le dire, à un mouvement de réforme plus profond de la législation antiterroriste, qui avait commencé avant lui. Je situerai le début de ce mouvement aux 2 livres blancs commandés par Nicolas Sarkozy, officiellement ou officieusement, le livre blanc de 2006 sur la sécurité intérieure et le livre blanc de 2008 sur la lutte contre le terrorisme, et qui vont être intéressant pour 2 choses. D'abord, pour la première fois, va apparaître une doctrine française de la lutte contre le terrorisme. Et puis surtout, ces livres blancs, dont un est confié à Alain Bauer, c'est pas inintéressant, indépendamment du personnage, c'est pas inintéressant parce que c'est ce deuxième livre blanc qui va marquer l'adhésion, non encore officielle, mais qui va se consacrer à mesure, de la France à la théorie dite de la globalisation de la sécurité, c'est-à-dire la suppression de la distinction entre sécurité intérieure et sécurité extérieure, qui est aussi un des points intéressants de l'évolution de la législation antiterroriste. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce mouvement, donc entamé à partir de 2006-2008, se terminera après l'état d'urgence, puisque on peut considérer que la loi Collomb n'est qu'un avatar de cette construction, mais que a priori elle ne la termine pas, et en conclusion on fera une espèce de petit jeu de paris où je vous expliquerai ce qui me semble être la prochaine étape dans cette construction et cette évolution de la législation antiterroriste, au moins parce que la police a cette espèce de sincérité d'avancer son coup d'après et de l'annoncer, entre autres, aux étudiants qu'on envoie en stage chez eux et qui nous ramènent après les émeaux. Donc, en tous les cas, le rapport entre législation antiterroriste et état de droit donne généralement lieu à des échanges d'arguments d'autorité avec, effectivement, comme il a été rappelé, d'un côté le gouvernement qui prétend qu'on a réussi à rester dans le domaine de l'état de droit, et de l'autre côté un double argumentaire en parfaite contradiction, c'est-à-dire l'idée d'un basculement dans l'état de police et l'idée de l'impéritie du gouvernement à armer efficacement l'État contre la menace. Donc des arguments d'autorité qui sont assez étonnants par le fait qu'ils balayent tout le spectre et mais qui ne sont pas inintéressants. Alors, en tous les cas, il faut exclure l'argument du désarmement de l'État ou autre, puisque, en général, les solutions proposées par ceux qui le revendiquent ou qui en sont les turiféraires sont des solutions au mieux inconstitutionnelles, au pire, qui nous feraient changer de régime, comme le disait tout à l'heure Sylvie Théo. Reste donc deux arguments. L'argument qu'on serait resté dans le cadre de l'État de droit, et le deuxième consistant à dire qu'on s'approcherait de l'état de police. Et là, effectivement, si on fait une lecture précise, c'est-à-dire une lecture en interprétant un peu ces notions, on peut effectivement voir ce qu'elles signifient. Du côté de l'argument gouvernemental, il n'est pertinent que si l'on admet qu'on ne se fonde plus sur une conception jus naturaliste de l'état de droit, c'est-à-dire une conception dans laquelle l'État serait lui-même soumis à un certain nombre de principes supérieurs qui s'imposeraient à lui, et qu'on évolue vers une conception strictement, enfin plus positiviste de l'état de droit, c'est-à-dire que l'état de droit, c'est le respect d'un certain nombre de règles, particulièrement de formes, qui font que la loi doit être adoptée d'une certaine manière, et qu'à partir de ce moment-là, l'état de droit est respecté. Donc, si effectivement on admet cette transition d'une conception de l'état de droit fondé sur les principes à une conception de l'état de droit fondé sur le respect des formes, alors l'argument gouvernemental est vrai. Emmanuel Valls peut continuer à dire je reste dans le cadre de l'état de droit, simplement il écarte les murs de l'état de droit un peu plus à chaque nouvelle norme, mais c'est vrai que ça reste du droit. Le deuxième argument, c'est l'argument de la mise en place d'un état de police. Alors là encore, ça ne résiste pas à l'analyse. Simplement, ça pose une question qui est une question intéressante en doctrine et particulièrement en doctrine administrative et qui rejoint ce que disait Nicolas tout à l'heure. C'est la question de à partir de quel moment on peut considérer que l'administration se gouverne elle-même. Et effectivement, la jurisprudence en matière terroriste ou en matière de mise en œuvre de l'état d'urgence dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, pose cette question de l'étendue du contrôle exercé sur l'administration, ou plus exactement, de l'étendue du pouvoir dont jouit l'administration pour décider elle-même du propre périmètre de son exercice et de la nécessité, surtout, de son intervention. Alors, l'hypothèse que je vais tenter de vérifier devant vous est que la législation antiterroriste a entamé ces dernières années une évolution d'un dispositif de droit pénal dérogatoire au droit commun, mais qui restait effectivement attaché quelque part au droit commun, vers un dispositif juridique autonome qui serait fondé sur un bouleversement des catégories juridiques héritées de la modernité et qui, à terme, est susceptible de devenir l'instrument sécuritaire de gestion de ce que l'État peut considérer comme des crises extrêmes. Là, évidemment, ça devient plus intéressant parce que si on reprend les périodes antérieures de confrontation à des crises terroristes, on peut considérer comme ça que chaque étape a été marquée par une attitude particulière. La première étape, c'est celle qu'on pourrait situer entre les menées anarchistes de la fin du 19e siècle et les lois scélérates de 1893-94 et la loi évoquée ce matin par Vanessa Codacioni, c'est-à-dire la loi sur la Cour de sûreté de l'État de 1963. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'exécutif revendique le recours à l'exception, c'est-à-dire qu'il est question, pour répondre à cela, de sortir du cadre ordinaire de la légalité et de recourir à l'exception. Intervient ensuite la parenthèse Badinter qui a aussi été invoquée ce matin, et cette déclaration de Robert Badinter au moment où il demande l'abrogation de la loi sur la Cour de sûreté de l'État, disant « il y a dans l'arsenal pénal ordinaire tout ce qu'il faut pour lutter contre le terrorisme, donc nous n'avons pas besoin d'un régime exceptionnel ». Ce qui évidemment va profondément marquer la culture, et donc lorsque quelques années après, on va réintroduire des dispositions spécifiques à la lutte contre le terrorisme, va s'ouvrir un deuxième épisode, qui est donc l'épisode 1986-2006, et qui serait un temps durant lequel la législation est systématiquement revendiquée comme une dérogation a minima au droit commun, mais maintenue dans le cadre du droit commun, du droit pénal. Et puis, on serait peut-être, et c'est donc mon hypothèse, en train de vivre l'émergence d'une troisième ère de la législation antiterroriste, c'est-à-dire celle de son autonomisation comme un droit sui generis, qui alors là, ne revendiquerait même plus son caractère dérogatoire, ou plus exactement la signification de dérogatoire changerait, c'est-à-dire que ce serait dérogatoire au sens d'une exception permanente. dérogatoire au droit commun comme une exception permanente à l'intérieur du droit commun. Alors pour le démontrer, j'envisagerai d'abord l'évolution de la législation antiterroriste vers ce qu'on peut appeler aujourd'hui un droit de l'ennemi, et puis ensuite le problème que pose le contrôle de l'élaboration et de cette mise en œuvre de ce droit de l'ennemi qui se situe dans une espèce d'intermédiaire entre ce que les institutions de contrôle font en temps de guerre et ce qu'elles font en temps de paix. Donc là aussi un régime hybride qui serait intéressant de voir s'épanouir. D'abord donc le contenu de la législation antiterroriste et le droit de l'ennemi, et là effectivement on peut distinguer deux choses. D'une part la consécration de ce que la doctrine pénale allemande appelle un droit pénal de l'ennemi, et d'autre part le bouleversement de catégories juridiques issues de la modernité qui conduisent le droit pénal à n'être plus l'ultima ratio de l'exercice par l'État de son droit de punir, pour devenir finalement, dans certaines circonstances même, le mode le plus doux dont l'État dispose pour exercer la répression contre les terroristes, et je le démontrerai. Donc un changement de paradigme à l'égard du droit pénal. Alors d'abord sur la consécration du droit pénal de l'ennemi, donc je le disais, cette théorie a été élaborée par un théoricien du droit allemand du nom de Günther Jacobs en 1985, qui estime qu'il y a droit pénal de l'ennemi à partir du moment où trois conditions sont réunies, c'est-à-dire une anticipation de la répression, une sévérité extrême des peines et un abaissement du niveau de garantie dans la procédure, et que ce droit pénal de l'ennemi est systématiquement justifié par la dépersonnalisation du délinquant, c'est-à-dire que le délinquant aurait accompli un acte tellement en rupture avec le contrat social qu'il se serait mis en dehors de la communauté politique et ne serait donc plus fondé à revendiquer les droits attachés à la qualité de citoyen. Pour l'anecdote, lorsque Urvoas est nommé ministre de la Justice, il donne une interview aux Parisiens. Il est interrogé, on est en plein débat sur la constitutionnalisation et entre autres sur la déchéance de nationalité, y compris pour les personnes ne disposant que de la nationalité française. Et sa réponse est de dire ça ne posera pas de problème en fait, parce que le juge va se contenter d'entériner une déchirure devenue définitive. Donc on est complètement dans la logique de Günther Jacobs. Il y a des individus qui se sont placés tellement en dehors de la communauté que le droit et la société ne leur doivent plus rien et que donc on peut à peu près tout se permettre. Alors, jusqu'à 2012, on a effectivement dans la construction de la législation antiterroriste des signes, des espèces de prémices de cette élaboration d'un droit pénal de l'ennemi, mais qui reste ambigu. Karine en a cité un, c'est effectivement cette incrimination de l'association de malfaiteurs terroristes par la loi de 1996. On anticipe aussi la répression en 2001 par l'incrimination du financement du terrorisme et en 2003 par l'incrimination de l'incapacité à justifier de ses ressources en vivant habituellement avec des personnes appartenant à la mouvance terroriste, donc ça devient relativement large. On a aussi des éléments, des règles procédurales moins garantistes, souvent héritées d'ailleurs de la Cour de sûreté de l'État, donc une garde à vue plus longue, un report de la possibilité d'avoir accès à un avocat après la loi de 2011. Bref, des éléments qui montrent que la procédure est moins garantie. La cour d'assises spéciale aussi a un mode de délibération particulier, puisqu'elle ne délibère qu'à une majorité simple et pas à une majorité qualifiée, comme c'est le cas en droit commun. Enfin, s'agissant de la sévérité des sanctions, eh bien, on a effectivement déjà une aggravation systématique des sanctions liées à l'acte terroriste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2012, l'ensemble des dispositions qui vont être adoptées en matière de législation antiterroriste vont participer de ces caractéristiques particulières du droit pénal de l'ennemi. C'est-à-dire que, s'agissant de l'anticipation de la répression, toutes les nouvelles incriminations vont basculer dans cette incrimination d'actes de plus en plus éloignés de l'acte terroriste lui-même, qui, comme le disait Karine, est déjà quelque chose qui est assez éloigné de la représentation qu'on se fait traditionnellement de l'acte de terroriste. Et ça commence immédiatement, ça commence avec la loi Valls de décembre 2012, qui incrimine le recrutement recrutement en vue de la participation à une association de malfaiteurs, c'est-à-dire l'acte préparatoire à un acte préparatoire à la commission d'une infraction. Et puis ensuite, par une espèce d'effet centrifuge, on va s'éloigner de plus en plus, et chaque ministre de l'Intérieur qui va se succéder, puisque c'est toujours le ministre de l'Intérieur qui fait la loi antiterroriste, va apporter sa petite pierre à l'édifice. Donc avec Cazeneuve, c'est l'auto-entrepreneur terroriste, avec enfin l'entreprise individuelle terroriste, pardon, avec Urvoas, ce sera la consultation habituelle de sites djihadistes. Alors sauf si vous avez un motif légitime, ce qui pose des questions absolument extraordinaires, c'est-à-dire moi je travaille sur le terrorisme, donc à partir de quand, à partir de combien de vidéos de décapitation ne suis-je plus légitime à en regarder? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut un motif légitime. À partir de combien de vidéos on peut considérer que je suis plus légitime et que je suis juste en train de me faire plaisir? Voilà, c'est ça la vraie question. Et alors pour Colomb, parce que quand même les autres avaient bien épuisé le champ, donc Colomb a quand même eu une idée aussi, c'est le fait de faire participer un mineur à une association de malfaiteurs terroristes, mais qui est un truc intéressant, puisque ça va permettre d'attraper les gens qui rentrent en ayant emmené leurs enfants. Voilà. Et particulièrement les femmes, parce qu'on a un problème avec les femmes, puisqu'elles n'étaient pas dans les unités combattantes de Daesh. Voilà. Donc on a déjà l'assignation à résidence pour elles. On aura maintenant une qualification, le fait d'avoir emmené un mineur participer à une association de terroristes. S'agissant des règles de procédure pénale moins garantistes, alors là, le champion, c'est Urvoas, qui donne au procureur de la République, sous le contrôle du juge de la liberté et de la détention, les pouvoirs auparavant détenus par le juge d'instruction. Et surtout, qui va faire basculer l'application des peines dans le régime dérogatoire antiterroriste. C'est-à-dire que jusqu'à la loi Urvoas, alors c'est assez marrant aussi parce que Urvoas a été président de l'Observatoire international des prisons, et surtout sous Sarkozy, Urvoas cogne comme un sourd au nom de la protection des libertés et autres. Et des jours où il se retrouve ministre de la Justice, il va faire basculer le dernier pan du droit pénal qui n'était pas encore dans l'exception terroriste, c'est-à-dire l'application des peines totalement dans une procédure dérogatoire et moins garantiste, puisque de fait, par exemple, la libération conditionnelle devient pratiquement impossible à obtenir pour un terroriste. Enfin, donc, s'agissant de la sévérité des sanctions, ben là aussi, Urvoas, 3 et 21 juillet 2016, perpétuité réelle, relèvement des sanctions en matière d'AMT, on passe à des peines absolument considérables, donc tout y est. C'est-à-dire qu'on est passé de dérogations ponctuelles au droit pénal commun à un droit pénal intégralement dérogatoire et construit donc autour de l'anticipation de la répression. On commet un acte de terrorisme en enregistrant sur son ordinateur une vidéo que le ministère de l'Intérieur a essayé de faire supprimer. D'accord, et ça, c'est un acte de terrorisme, c'est pas un acte de complicité ou autre. Donc on tombe complètement dans le régime et on s'expose à toutes les sanctions, avec une procédure moins garantie. C'est des peines extrêmement sévères, peines qui posent d'ailleurs un problème, c'est-à-dire qu'effectivement, on en parlait ce matin, mais quand vous avez des gens qui ont, grâce à la loi Cazeneuve sur l'apologie des terrorismes, été condamnés en comparution immédiate et expédié en détention pour quelques mois, voire quelques années, je ne suis pas du tout sûr qu'en sortant, ils ne soient pas plus dangereux. Voyez-vous, c'est-à-dire que vous prenez des gens qui sont déjà un peu borderline à l'égard du terroriste et vous les envoyez en tôle. Et là, en sortant, je pense que c'est pas mal, d'autant qu'ils ne restent pas très longtemps. S'agissant du bouleversement de l'exercice du droit punir, alors ce sera beaucoup plus rapide. Il faut revenir au principe de la modernité. Principe qui veut qu'il y ait une séparation entre la sécurité intérieure, gouvernée par les autorités civiles, et la sécurité extérieure, confiée à l'autorité militaire. Et puis, une deuxième distinction, qui est la distinction entre police administrative et police judiciaire. La police administrative, sous l'autorité du préfet, chargée de prévenir la commission d'infraction, et la police judiciaire, chargée, elle, de collecter les preuves de l'infraction et d'en identifier les auteurs. Or, dans la législation antiterroriste, eh bien, tout ça se fond dans une espèce de bouleversement général. Jusqu'à la loi de 2014, on avait plutôt un empiètement du pénal sur le domaine de l'administratif, à raison de ces infractions, ces incriminations d'actes préparatoires, ce qui tendait à éviter la commission d'une infraction, devenait l'infraction elle-même et relevait du droit pénal. La loi Cazeneuve de 2014 met un terme à tout ça, et la législation antiterroriste constitue une sorte de revanche du droit administratif qui sera confirmée par la loi Urvoas de 2016 et aujourd'hui par la loi Colomb, avec donc toute une série de dispositions relevant de la police administrative, alors même qu'on est dans le domaine du droit pénal, donc typiquement l'assignation à résidence d'individus qui pourraient tout à fait ressortir à la qualification de l'association de malfaiteurs terroristes, ou ces fameuses visites avec le, là encore effectivement l'euphémisation, les fameuses visites qui dans la loi Urvoas de 2016 sont déjà totalement possibles, décidées par le procureur de la République sous l'autorité du JLD, mais ça ennuie les policiers d'avoir à justifier de tout ça, alors on va passer à quelque chose de plus simple. Donc une espèce de renversement qui fait que c'est à présent le droit administratif sous l'autorité du préfet qui empiète sur le domaine du droit pénal. Et donc une abolition des distinctions préexistantes. Plus inquiétante, entre autres en termes de droits fondamentaux, est la militarisation de la répression, c'est-à-dire la fin de la distinction sécurité intérieure et sécurité extérieure. Alors là, il faut distinguer à l'intérieur des frontières et au dehors des frontières. À l'extérieur des frontières, pardon, c'est les fameuses opérations extérieures militaires de lutte contre le terrorisme. Donc ça, c'est un concept assez intéressant, parce qu'on utilise l'armée en opération extérieure pour lutter contre une forme de criminalité, ce qui est assez curieux, mais on a donc Serval, Barkhane et Chammal. Ce qui est beaucoup plus intéressant en termes de droits fondamentaux, c'est que dans ce cadre-là, et le président qui n'aurait pas dû dire ça l'a révélé, on a recours aux exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire qu'on revient aux pratiques de la sale guerre, et donc effectivement, dans ce cadre-là, on peut quand même considérer que le droit pénal constitue un traitement infiniment plus doux que le fait d'envoyer un missile depuis un avion de chasse sur un ressortissant français qu'on suspecte de terrorisme ou qui a rejoint Daesh ou autre groupe en Syrie. À l'intérieur des frontières, c'est deux choses. C'est d'abord effectivement l'opération Sentinelle que l'ancien ministre de la Défense Le Drian présente immédiatement comme une opération intérieure. Et là, évidemment, ça rappelle quand même des choses qu'on n'avait plus vues depuis ce qui relève de la spécialité de Sylvie. Et l'armée en opération intérieure sur le territoire national. Mais surtout, ce qui me paraît plus intéressant, c'est effectivement toutes ces lois et les rapports attachés en matière de programmation militaire qui entraînent la modification des règles de l'emploi de l'armée sur le territoire national avec ce qu'on appelle les scénarios génériques d'engagement. Et il est donc prévu maintenant clairement que les forces armées peuvent intervenir sur le territoire en cas d'attaque terroriste majeure, mais aussi, et c'est plus intéressant pour la suite, de crise d'ordre public. D'accord ? Donc l'armée pourra être utilisée en cas de crise d'ordre public. Et il y a un deuxième élément qui me paraît intéressant, c'est la loi de février 2017 qui modifie les règles de légitime défense et d'usage des armes. Et pour la première fois, donc, on a dans un texte du code de procédure pénale, du code de la sécurité intérieure et du code de la défense, enfin, il est un peu partout ce texte, mais un texte qui met sur un pied d'égalité les policiers de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les militaires impliqués dans des opérations intérieures sur le territoire, avec donc des règles d'usage d'armes sur simple sommation et les conséquences qui ont été rappelées par Karine tout à l'heure à Marseille, au carrousel du Louvre et autres. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on soit complètement conforme à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous le voyez, se construit un droit de l'ennemi autonome et cohérent, et ce qui pose problème, c'est qu'a priori en droit, quand vous avez un droit aussi dérogatoire, un droit aussi exceptionnel, eh bien il doit être soumis à un contrôle strict. C'est le vieux principe exceptio sunt restringenda qui veut que normalement le contrôle doit être strict. Et ce qui est intéressant quand on examine le contrôle de l'élaboration de la législation antiterroriste, mais aussi de sa mise en œuvre, c'est que justement on ne retrouve pas cette exigence de contrôle strict, au contraire. Alors il faut distinguer très rapidement le contrôle politique du contrôle constitutionnel. S'agissant du contrôle politique, on a deux institutions qui en sont chargées. D'une part le Parlement, et là l'évolution du Parlement est extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'en 1986, quand on réintroduit de la législation antiterroriste, le débat sur cette législation est un débat, je dirais, normal. Donc normal selon les critères de la 5e République, c'est-à-dire qu'à la fin, la majorité gagne, mais un débat normal dans lequel on a le système de navette, on a du travail en commission, on a des amendements déposés par l'opposition, des discussions. Ça fait plusieurs allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis, ça se finit après le vote par une saisine du Conseil constitutionnel. Même chose en 1996. En 2001, après les attentats, tout ça s'arrête. Et à partir de là, va se modifier le travail parlementaire de telle manière qu'aujourd'hui, tout est discuté à l'intérieur de la commission des lois, ce qui fait que le texte qui arrive au niveau des débats est un texte sur lequel les grands arbitrages ont été faits, et donc le débat parlementaire n'est plus qu'un débat à l'intention de son propre électorat, ce qui donne cette image un petit peu caricaturale, où vous allez avoir la droite extrême qui réclame des camps de concentration, la gauche extrême qui crie au changement et au basculement dans la dictature, mais en fait aucun débat sur les dispositions réelles qui sont contenues dans la loi. On n'en parle pas, et on fait un petit message, probablement aussi parce qu'on a visé l'urgence, qu'il n'y aura que peu de temps de débat et qu'il faut donc faire sa communication. En tous les cas, deux choses sont intéressantes. D'abord, la première chose, c'est qu'il n'y a plus aucune référence aux experts. Dans une société qui est censée fonctionner sur l'expertise, vous avez des choses intéressantes, les avis de la CNIL, de la CNCDH et autres sont systématiquement passés pour perte et profit. Et puis là, effectivement, ce que signalait Karine, vous avez pour la première fois depuis très longtemps 500 universitaires qui signent un texte contre la loi Collomb. 500 universitaires, c'est quand même pas tous les jours que vous réussissez à faire signer à peu près tout le spectre politique. Aucun auditionné, ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ça n'existe pas, et on passe à autre chose. Et puis, à partir de 2001, plus de saisine du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que dans les textes qui intéressent le terrorisme, la seule saisine du Conseil constitutionnel, c'est François Hollande, c'est la loi sur le renseignement en 2015, tous les autres sont passés par perte et ses profits. Alors la résistance parlementaire faiblit à mesure que croît l'imagination du gouvernement, en plus. On a deux exemples qui me paraissent très intéressants, vu le temps qui me reste, j'en signalerait Justin, c'est le fameux article 421-2-5-2 sur la consultation habituelle de sites djihadistes. Le Conseil constitutionnel, de manière tout à fait extraordinaire, avait censuré cette disposition en QPC, ce qui n'arrive pratiquement jamais, mais il s'en expliquait en disant « on n'en a pas besoin, il y a tout ce qu'il faut dans la loi pour sanctionner la même chose, donc je peux me permettre de faire croire que je protège les droits fondamentaux en annulant la disposition ». Ça vexe le gouvernement, qui va donc réintroduire ce texte, mais le problème c'est qu'il n'a pas de texte sous la main. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va l'introduire au niveau de la commission mixte paritaire dans le cadre de la discussion de la loi qui deviendra la loi du 18 février 2017. Et donc, les députés, sans état d'âme, vont approuver un texte qui viole le règlement de l'Assemblée nationale et la Constitution. Aucun problème. Et on réintroduit un texte inutile. D'accord ? C'est-à-dire, c'est même pas parce qu'il y aurait eu un truc. On réintroduit un texte inutile, juste pour montrer un peu qui c'est le chef encore, où est l'autorité. Le contrôle du Conseil constitutionnel, on va être extrêmement poli à l'égard du Conseil constitutionnel. Il suffit de dire effectivement que je le classe parmi le contrôle politique. Et alors, s'agissant donc du Conseil constitutionnel, déjà avant 2012, au moment où elle soutient sa thèse, Karine Roudier, qui a donc travaillé sur cette question, dit que le Conseil constitutionnel fait que l'objet même des lois antiterroristes fait glisser le contrôle de constitutionnalité dans une zone de tolérance plus importante, une jurisprudence plus élastique qui traduit un repli du contrôle de constitutionnalité, l'assouplissement de la norme constitutionnelle. Et elle termine en disant « le rempart contre l'arbitraire que représente le juge constitutionnel est en train de se fissurer ». Alors c'était ça en 2012, en 2015 on a encore franchi un cap, et là c'est très bien résumé dans les travaux récents du Credoff et entre autres par un article de Véronique Champagne-Desplats. Grosso modo, le Conseil constitutionnel aujourd'hui c'est quoi en matière de terrorisme? C'est une première disposition consistant dans l'interprétation de l'article 34 de la Constitution qui dit qu'il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques. Et donc par ce biais, vous ne censurez jamais, puisque l'équilibre entre liberté et sécurité appartient au législateur, sauf à ce qu'il soit démontré que la conciliation réalisée était manifestement déséquilibrée. Et ça, déjà il y a quelques années, René Coëring-Joulin et Constance Grève disaient, avec ce genre d'argument, vous ne trouvez jamais de situation manifestement déséquilibrée. Ce qui fait que cette absence de disproportion manifeste fait que tant que les formes sont respectées, c'est-à-dire grosso modo qu'on met un juge et qu'on ne viole pas les droits indérogeables, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas la torture, eh bien tout peut être constitutionnel. Mais quand même, une fois de temps en temps, ça coince un peu. Et alors là, quand ça coince... Je termine très vite. Quand ça coince un petit peu, on a un deuxième principe, c'est le principe de la neutralisation par le Conseil constitutionnel de ses propres décisions, à raison du fait que faire jouer l'inconstitutionnalité qu'il a lui-même constatée aurait des conséquences manifestement excessives sur l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'ordre public. Et donc, du coup, le Conseil constitutionnel sauve lui-même tout ce qu'il fait, sauf une fois, et c'est le point intéressant, c'est la décision 2015 QPC du 22 décembre 2015, où le Conseil constitutionnel dit « Bon, moi, je ne fais rien, je renonce à tout contrôle, mais je prévois qu'en matière d'assignation à résidence, le juge administratif devra exercer un contrôle plein et entier, allant au-delà du contrôle qu'il exerce ordinairement. » Donc, vous voyez, vous avez au niveau politique quelque chose qui relève complètement de la guerre, l'union sacrée, l'abandon, on n'emmerde pas l'exécutif, mais quand même, on renvoie vers le juge administratif le soin de faire. Alors, sur le contrôle du juge administratif, j'en finis. Sur le contrôle du juge administratif, tout a été dit. Sur le contrôle du juge judiciaire, je crois que la seule chose que le juge judiciaire a en plus que le juge administratif, c'est effectivement d'intervenir avant l'acte. Pour le reste, il n'offre aucune garantie supplémentaire. Au contraire, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de terrorisme se caractérise par deux choses. La jurisprudence est moins exigeante s'agissant du respect du principe de légalité. La chambre criminelle, soit dans un arrêt, a accepté qu'on ajoute des conditions, en l'occurrence le fait de ne pas avoir fait preuve de repentir pour un terroriste, permettait de le priver de la liberté conditionnelle, a refusé de jouer son rôle de clarification de la loi dans l'arrêt Tarnac. Elle dit « je ne prendrai pas position sur le fait de savoir s'il y a une différence entre infraction politique et terrorisme » et de violer sa propre jurisprudence en matière de loyauté des preuves pour faire un revirement ad hoc, c'est-à-dire elle fait un arrêt de principe, terrorisme, et nouvel arrêt de principe après, le terrorisme disant juste le contraire, c'était dans l'affaire de Guantanamo, on pourra y revenir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le contrôle, et je vous dis plus tard. Merci.